de pierres et de notes, votre rendez-vous musical, orchestré par Blandine Piccinini.
Bonjour, bienvenue dans l'émission de Pierre et de Notes. Je suis en compagnie d'Yves. Bonjour Yves, vous êtes organiste.
Bonjour Blandine.
Vous êtes aussi professeur de physique et structure. Et dans ce sens, vous nous proposez d'aborder l'orgue, notamment avec le toucher. Le toucher de l'orgue, qu'est-ce que c'est pour vous? Quelle conception avez-vous de cette habilité que l'on doit avoir, nous, en tant qu'organiste?
D'abord, le toucher, c'est le contact physique avec l'instrument. Et le contact physique avec l'instrument, je dois vous dire que sur les 200 instruments sur lesquels j'ai eu l'occasion de donner des concerts, eh bien, je me souviens du toucher de chacun d'eux, parce que l'ivoire ou le plastique ou le bois n'est pas le même d'un instrument à l'autre. Et puis la réaction mécanique, suivant qu'il y a une transmission plus ou moins lourde ou électrique, c'est quelque chose qui laisse un souvenir extraordinaire. Les claviers en bois sont extrêmement attachants parce qu'ils ont une certaine chaleur et on aime le contact un petit peu comme le violoniste avec son violon qui, j'allais dire, qui cajole son instrument. Et puis la mécanique suspendue, c'est également quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'on a l'impression que la soupape s'ouvre sous le doigt quelque part et qu'on commande directement l'arrivée d'air. Donc ça, c'est la partie physique du toucher. Mais le terme « toucher », dont d'ailleurs le mot « toccata » est issu, « toccare », on peut parler du toucher en tant que tel, ça recouvre également la manière d'attaquer les sons, c'est-à-dire le coup d'archet, en réalité, que l'on va donner. Alors, de manière assez dynamique, il y a trois grandes catégories pour toucher l'orgue. Il y a bien sûr le legato, que nous connaissons tous, qui consiste à enchaîner une note après l'autre sans solution de continuité. Il y a à l'inverse le staccato qui, comme son nom l'indique, va sautiller et va véritablement danser sur le clavier. Et puis entre les deux, il y a le mouvement de l'archet qu'on voit très bien par exemple sur le violoncelle, de l'archet qui va tirer pam, 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 qui va tirer des bords si vous voulez et qui va progresser par étapes.
Cela s'appelle des modes de jeu, donc
tout
le pizzicato, le staccato, le legato, le portando.
Portando, absolument, tout à fait, et qui va donner véritablement l'articulation de la voix.
Comment travailler l'indépendance des mains? Car elle met en valeur le discours musical.
Alors effectivement, on va travailler les voix indépendamment les unes des autres. Alors Dupré recommandait de travailler la main droite et la pédale, la main gauche et la pédale, et ensuite de combiner les trois, mais je vais vous dire... La véritable méthode pour travailler, c'est encore la nôtre. C'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Et donc voilà, c'est le travail.
Vous voulez nous faire entendre cette fugue en gigue de Johann Sebastian Bach, BWV 577. Pourquoi?
Alors, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, parce que cette fugue en sol majeur est tout à fait admirable par les alternances entre staccato, legato et même les alternances entre claviers. Donc c'est tout à fait dynamique comme fugue, c'est très joyeux, c'est extrêmement joyeux. Et puis il atteint avec les quatre voix la limite de ce qui est possible en termes d'indépendance entre les mains et les pieds. Quand la pédale reprend le thème, c'est tout à fait remarquable. En plus, c'est pour nous l'occasion d'écouter un grand organiste américain, disparu il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Virgil Fox, alors qui avait un petit peu le sens du spectacle, mais qui était quand même très très fort, parce qu'on va l'entendre sur un instrument à transmission électrique. Ce qui est tout à fait remarquable, pour arriver à faire le staccato sur un instrument électrique, il faut vraiment avoir un toucher exceptionnel. Donc voilà un exemple de dynamique. Il y a quelque chose du piano dans cette dynamique, mais c'est sur un grand orgue symphonique de 5 claviers à transmission électrique.
Thank you.
L'orgue permet de voyager, mais il y a aussi un voyage dans l'orgue. Il y a aussi parfois des limites entre le corps, les contacts physiques que l'on peut avoir. Comment vous voyez ce travail de recherche sur les gestes que l'organiste peut avoir avec cette adaptabilité qu'il doit avoir quand on voyage à travers le monde entier pour trouver un toucher d'orgue?
Il y a effectivement un voyage intérieur, on va dire, dans l'instrument. Alors pour ça, il faut parler quand même de la relation instrumentale. Quand on joue sur un instrument et qu'on est vraiment dans la musique, il y a, j'oserais dire, un esprit de corps entre l'instrumentiste et l'instrument. Et quelque part, l'instrument vient prolonger la voix, j'oserais même dire la pensée, de l'instrumentiste. Alors, ça n'est pas toujours le cas immédiatement. C'est pour ça que quand on arrive pour donner des concerts, il n'est parfois pas inutile d'aller voir l'instrument, de répéter. Et alors, dès lors, on a cette sensation assez étrange de s'approprier la musique en même temps que l'instrument. Je dirais qu'on ne sait plus très bien si c'est vous qui jouez l'orgue ou si c'est l'orgue qui vous entraîne plus loin dans ce voyage intérieur.
Vous voulez nous faire découvrir cette fugue de Pachelbel grâce à des notes répétées. Comment essayer de travailler les notes répétées?
Le problème des notes répétées à très grande vitesse a été résolu par Liszt. Parce qu'avec les facteurs de piano de son époque, en particulier Sébastien Érard, il a mis au point le système du double échappement sur le piano, qui n'existe pas sur les orgues. Alors avec le double échappement, on peut réaliser des répétitions de notes vertigineuses au niveau du piano par substitution des doigts. Sur l'orgue, c'est très intéressant parce que la mécanique est plus proche de celle du clavecin. Alors on y arrive quand même, mais il y a un certain nombre d'artifices à avoir, peut-être qui se font d'ailleurs par la vie intérieure de cette fugue. Alors cette fugue est tout à fait intéressante. Si vous voulez, c'est une des premières fois dans l'histoire de la musique où on a autant de notes répétées à la suite. Pour la petite histoire, tout à fait à la fin, apparaît le thème du carillon de Westminster, à la fin de cette fugue, dans la conclusion. Mais c'est tout à fait anecdotique. Ce qui est très intéressant, ce sont les notes répétées, qui vraiment valident à la fois le toucher de l'instrumentiste et la réaction de la mécanique.
peut-être entre ce que le compositeur écrit, l'organiste et même l'instrument. Comment peut-on allier les trois ?
Alors, si j'osais, je dirais que c'est le charme de la difficulté. C'est-à-dire qu'on se frotte là, effectivement, à des choses très complexes. Alors, je crois qu'en toute humilité, il faut dire qu'on ne fera jamais le tour complet d'une œuvre. Voilà. Quand on joue une grande fugue de Bach, on l'explore, on en voit une facette, mais on n'en fait pas le tour. Et je pense que c'est très bien, quelque part. Alors, vous savez, pour prendre une comparaison qui n'est pas musicale, quand vous regardez une œuvre d'art, je prends un tableau tout à fait exceptionnel, pensez-vous qu'on puisse véritablement en faire le tour ? Je ne le pense pas. Et c'est peut-être la définition de l'art, d'ailleurs, quelque part.
Le toucher est-il justement pour toucher la personne, pour toucher le public, pour toucher les émotions ? Car quand on lit une musique, on doit l'interpréter. Donc, en tant qu'organiste, comme musicien, on est sensible. Le toucher permet d'évoquer la sensibilité pour exprimer quelque chose. Donc, comment toucher l'émotion à travers les sortes de nuances, même s'il y a des jeux qui nous invitent à cela ?
Votre remarque est tout à fait intéressante. Si j'osais, je dirais que le toucher est touchant. C'est-à-dire que sur l'orgue, alors ça n'est pas la même dynamique de la percussion du piano, mais c'est une dynamique autre. C'est la manière d'attaquer les notes, c'est la durée. Et si j'osais, je dirais c'est l'âme que vous y mettez. Et je crois que quelque part, à travers la complexité, alors ce qui compense l'absence de la dynamique, c'est la complexité de la musique et qui fait que quelque part, vous, à partir de l'appropriation des claviers par la main, d'ailleurs, il faut regarder la position des mains d'un organiste sur les claviers de l'orgue, il y a une véritable reptation, une véritable préhension. Et finalement, on ressent à l'audition que l'organiste, quelque part, est totalement immergé dans son instrument. Quelque part, il le prend littéralement à bras-le-corps.
Le toucher peut-il être différent, même si on a beaucoup travaillé, quand on est sur un autre orgue, l'œuvre sonne de manière différente ?
Non seulement, vous avez raison, je vais même aller plus loin, non seulement vous pouvez, quand vous changez d'instrument, changer pour le même organiste la façon de jouer, mais pour un même interprète, suivant, si j'osais, je dirais l'humeur du moment, on peut imaginer plusieurs interprétations. Celui qui était très bon pour ça, c'était André Izoard, parce qu'il avait une variété de toucher tout à fait extraordinaire, et il était capable de jouer un concerto de Vivaldi de manière tout à fait violonistique, si j'ose dire, ou de manière tout à fait percussionniste, si j'ose dire. Voilà. Et donc, oui, vous avez raison, il y a une variété, et je crois que dans ce domaine, il n'y a pas une vérité. Il y a plusieurs façons de voir les choses.
Vous êtes professeur, donc vous transmettez pas mal d'éléments à certains étudiants, mais est-ce que le toucher peut s'apprendre finalement ? Est-ce que le toucher, c'est une matière pour pouvoir aborder l'œuvre ?
Alors, j'en veux l'exemple de mon maître. Je crois que ça ne peut s'apprendre, d'ailleurs comme la physique, que véritablement par l'exemple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer les choses de manière théorique. Et à ce titre, eh bien, il faut regarder Murray Perahia, il faut regarder Glenn Gould, il faut regarder Horowitz, il faut regarder tous les grands artistes, c'est très impressionnant.
Le toucher se regarde, mais aussi s'écoute.
Oui, mais les deux, mon général. C'est-à-dire que vous avez raison, vous voyez, lapsus révélateur, j'ai pas dit écouter, il faut aussi le regarder. Non, le regarder avec le cœur, le ressentir. C'est pas une question visuelle, c'est une question de regard de l'âme.
Les notes répétées peuvent-elles être répétées d'une autre manière ou de manière différente ? Ou quand on répète, est-ce que c'est une imitation ou est-ce qu'on veut dire autre chose à travers les répétitions ?
Oui, alors eh bien, écoutez, il suffit d'écouter, je vais prendre un exemple extrême, hein, la deuxième rhapsodie de Liszt, vous la prenez interprétée par Szifra ou par Horowitz, les notes répétées, là, qui sont très difficiles d'ailleurs, hein, ne sont pas du tout les mêmes et c'est la même œuvre, c'est très étrange. Et on n'arrive pas à savoir à quoi ça tient. Si, moi je vais vous dire, ces deux âmes magnifiques, c'est le mystère de la création, c'est la beauté dans la diversité.
Merci Yves, vous nous avez touchés sur l'émission sur le toucher, sur l'orgue. À bientôt dans l'émission de Pierre et de Notes.
Merci Blandine et à bientôt.
C'était de Pierre et de Notes, une émission présentée par Blandine Piccinini sur Radio Présence Lot.